Assurance, présente dans 14 pays et leader en assurance vie en Afrique subsaharienne francophone, vous propose Priorité Santé.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Ce sont les seuls médicaments obligatoires et pourtant, ils sont prescrits le plus souvent à des personnes en bonne santé. Ils sauvent des millions de vies. Pourtant, certains décrivent leurs risques supposés. Eux, ce sont les vaccins, clé de voûte de la médecine préventive. En stimulant indirectement le système immunitaire, ils ont permis de faire diminuer considérablement les décès liés à des maladies infectieuses, comme la diphtérie, la poliomyélite, la rougeole. Des millions de vies sauvées chaque année grâce à des campagnes de vaccination, des vaccins recommandés, donc parfois obligatoires. 11 à compter de janvier en France pour les enfants. Un total de 10 injections entre 2 mois et 2 ans. Une extension de l'obligation que le gouvernement explique par le niveau de couverture vaccinale insuffisant dans le pays. 80%, loin des 95% préconisés par l'Organisation mondiale de la santé. Car la vaccination n'est pas un acte de santé individuel, mais répond bien à une démarche collective dictée par des politiques de santé publique. Avec nous en studio, Frédéric Tanguy, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche au CNRS, chef du laboratoire de génomique virale et vaccination à l'Institut Pasteur. Tout à l'heure, nous retrouverons en ligne du Burkina Faso le docteur Isaïe Meda, directeur de la prévention par les vaccinations à Ouagadougou. Et comme chaque lundi en fin d'émission, nous retrouverons la chronique nutrition de Stéphane Besançon, nutritionniste et directeur de l'ONG Santé Diabète. Et puis bien sûr, pour témoigner, poser vos questions, le numéro de Priorité Santé, c'est le 33 1 84 22 75 75. Frédéric Tanguy, ce que l'on perçoit à la lecture du livre que vous avez co-signé avec Jean-Nicolas Tournier, l'ouvrage s'appelle « Les vaccins pour les nuls », il est publié aux éditions First, c'est que l'actuel débat sur les vaccins en France, c'est le fruit d'une sorte de paradoxe, hein, parce que si certains utilisent les médias, les réseaux sociaux pour essayer de jeter le discrédit sur les vaccins, c'est précisément parce qu'ils vivent dans des zones à une époque où souvent, sans qu'ils s'en rendent plus compte vraiment, ces mêmes vaccins les protègent des pires maladies infectieuses. Bref, ils dénoncent ce qui les sauve au quotidien.
Effectivement, les vaccins sont victimes de leur succès en quelque sorte. Parce que les vaccins, comme vous l'avez dit, c'est l'atout majeur de la médecine préventive, qui est la meilleure médecine, évidemment la moins coûteuse. On est vacciné une fois dans sa vie, on n'attrape jamais les 11 maladies dont il est question. Donc, ils sont victimes de leur succès parce que on injecte les bébés et ensuite les bébés sont simplement pas malades. Donc, on voit pas l'effet et on s'imagine que les maladies ont disparu. Or, elles n'ont pas disparu, bien évidemment. Et si on a rendu très récemment cette vaccination obligatoire pour 11 vaccins, c'est parce que ces maladies reviennent. Et l'exemple typique, c'est la rougeole, qui est une maladie gravissime, qui tuait 2,5 millions d'enfants dans le monde en 1985 chaque année. Et qui aujourd'hui est considérablement réduite. Dès qu'on baisse la garde, elle revient, et on a eu des grandes épidémies en Europe il y a 4-5 ans, avec un certain nombre de décès, qui ont vraiment poussé à prendre ces décisions de rendre ces vaccinations pédiatriques obligatoires pour augmenter un peu la couverture dont vous parliez tout à l'heure. Si on peut arriver ne serait-ce qu'à 90% ou 92% de couverture en rougeole, on va gagner une petite étape.
Parce qu'en effet, les chiffres sont très impressionnants, hein. On l'a oublié peut-être, des millions de morts quand on voit ces différentes maladies infectieuses. Certaines ont disparu, on en reparlera tout à l'heure, le cas de la variole qui est vraiment très emblématique, aussi bien dans l'histoire que dans la réussite de la vaccination. Les sociétés, en quelque sorte, on a l'impression qu'elles n'ont pas la mémoire de cette histoire médicale. Dans ce débat, il y a des oppositions tellement radicales qu'elles donnent écho à des combats plus idéologique que scientifique.
Oui, alors la lutte contre les vaccins est née avec les vaccins, dans l'histoire des vaccins, des premières tentatives de vaccination, des gens s'y sont opposés.
Il faut dire qu'à l'époque, il y avait eu quelques petits accidents, puisqu'on inoculait le vaccin, il y avait moins de contrôle, il y avait moins de vérification, il y a eu même des dizaines de morts à cause de la vaccination.
Absolument.
À cette époque-là.
Surtout pour la variolisation, donc les premières étapes de la vaccination antivariolique ont été assez coûteuses, effectivement. Il a fallu apprendre, comme tout nouveau développement technologique dans l'histoire de l'humanité, on apprend à ses frais. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a atteint un niveau de sécurité qui est quasi absolu, c'est-à-dire qu'un vaccin ne peut pas être mis sur le marché s'il a plus d'un effet désirable, majeur, grave, sur 100 000 individus, c'est-à-dire que c'est quand même assez gros. On ne parle pas des effets mineurs qui sont une petite douleur, une petite rougeur, un petit bouton, un demi degré de fièvre pendant quelques heures. Ça, c'est des effets secondaires mineurs, mais des effets secondaires majeurs, c'est moins de 1 sur 100 000. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un médicament qui sont couramment consommés par ailleurs qui a ce niveau faible de toxicité.
Alors on va aborder à nouveau ce débat, si vous le voulez bien, sur la vaccination en deuxième partie d'émission. Il faut le souligner, hein, ce débat est assez français. Dans d'autres régions du monde, la préoccupation, c'est bien davantage de faire vacciner les bébés hein, pour leur épargner une pneumonie qui tue encore, par exemple, 1 million d'enfants chaque année dans le monde. Ou la rougeole, on en parlait tout à l'heure, même si, justement, vous le disiez, pour la rougeole, l'an dernier, encore 90 000 décès. Est-ce que on peut, Frédéric Tanguy, est-ce que les médecins pensent que la vaccination pourrait encore faire réduire justement la mortalité de la rougeole ?
Oui, c'est un but de l'OMS, naturellement. C'est très difficile, parce que la rougeole, c'est probablement une des deux maladies infectieuses les plus contagieuses humaines. Ça veut dire qu'un individu est capable d'infecter une vingtaine d'autres individus autour de lui, alors que la grippe, le même chiffre, c'est 2,5. Un individu va donner la grippe, va transmettre la grippe à 2,5 personnes. Donc la rougeole, c'est en gros presque 10 fois plus infectieux que la grippe, ce qui veut dire que les épidémies sont de très grande ampleur. Donc dans ce cas-là, pour protéger la population, on a besoin de 95% de couverture vaccinale. Alors si en France, vous imaginez, ou en Italie, en Angleterre, en Suisse, on est à moins de 90%, certaines fois 85, 87, vous imaginez que dans certaines parties du monde difficiles, aux économies difficiles, pays brinque-ballés, des guerres, etc., des migrations, une grosse partie de la population n'est toujours pas vaccinée. Donc tant qu'il y a cette fenêtre ouverte, le virus peut se propager. Et juste pour dire un mot sur la pneumonie, dont on meurt sévèrement, la pneumonie, on l'attrape quand on a eu la rougeole. Parce que la rougeole immunosupprime l'enfant qui l'attrape pour environ 2 mois.
Vulnérable.
Et pendant 2 mois, cet enfant est vulnérable à attraper des infections palustres, des crises, des accès de palustres, surtout dans les pays d'Afrique, à attraper des diarrhées, à attraper des pneumonies bactériennes.
On parle justement de l'amélioration de l'accès à la vaccination. Frédéric Tanguy, ça passe par quoi ? Par une meilleure communication ou simplement par plus de moyens ? Un apport financier conséquent ?
Les deux. La communication, c'est très important. On a vu le problème de fièvre jaune l'an dernier au Brésil, dans des populations supposées vaccinées, qui en fait ne se vaccinaient pas, parce que, bon voilà, c'est pas si grave que ça la fièvre jaune. C'est faux, la fièvre jaune, c'est 20 à 30% de mortalité. Quand on est infecté par la fièvre jaune, on a 20 ou 30% de risque de mourir. Donc c'est une maladie bien évidemment très grave. Et il y a un vaccin ultra efficace qui marche très bien, une seule injection, protégée pour toute la vie. Là, il faut communiquer. Il faut aussi mettre de l'argent, parce qu'il y a des pays qui n'ont pas les moyens de s'acheter les valances vaccinales chaque année, parce qu'ils ont été désorganisés, parce que le gouvernement fait mal son travail, ou X raisons, on ne va pas rentrer dans les détails. Et là, c'est à la communauté internationale d'intervenir, ce qu'elle fait, très largement. Mais voilà, c'est pas une chose si facile à faire. Et il faut continuer, bien évidemment, c'est un travail qui s'arrêtera jamais. Je rappelle qu'il n'y a qu'une seule maladie aujourd'hui qui a été éradiquée, c'est la variole, et que toutes les autres continuent de sévir.
On en parle justement de la variole hein, dans votre livre « Les vaccins pour les nuls ». Il y a cette épopée de la vaccination. C'est passionnant, hein, ça se lit comme un roman d'aventure. C'était la variole l'une des maladies les plus redoutées des 18e et 19e siècles, non seulement parce qu'elle était à très haut taux de morbidité, de mortalité, mais aussi parce qu'elle laissait des traces épouvantables sur le visage des gens. Éradiquée en 1980, et en fait c'est la variole qui est à l'origine de tout.
Bien sûr, c'est la peur de cette maladie qui a motivé les hommes à comprendre comment ça marchait. Et naturellement, on sait depuis le XVIe siècle, il est rapporté dans l'histoire chinoise que les médecins variolisaient les patients, c'est-à-dire que quand il y avait une épidémie de variole, on grattait un peu les boutons des individus qui avait une petite variole pas trop puissante, et on l'inoculait ça aux autres pour les protéger. Évidemment avec un taux de réussite qui était bon, mais un taux d'échec aussi important, c'est-à-dire 10 à 15% des personnes variolisées attrapaient la variole.
Même des gens qui portaient des vêtements de personnes qui étaient malades pour être en contact avec les antigènes.
Oui, alors ça s'est fait dans les deux sens. Vous savez aussi l'histoire fameuse que pour éradiquer les populations amérindiennes, les Espagnols leur offraient des couvertures dans lesquelles les varioliques ou les pesteux avaient dormi, et comme ça ils transmettaient les maladies, y compris la tuberculose. Donc on peut être gentil.
Pour le meilleur et pour le pire.
Pour le meilleur et pour le pire, exactement.
Alors la variolisation, cette pratique est indirectement à l'origine de tous les vaccins, avec au fil des années au XXe siècle, certains de ces vaccins qui sont devenus obligatoires, comme en 1957, vaccin contre la poliomyélite, obligatoire en France, tout de suite, ces archives de l'INA, une campagne lancée à grand renfort de messages, donc petite remontée dans le temps, 1957.
Après l'Amérique, l'Europe adopte la vaccination contre la poliomyélite. En France, c'est la petite commune savoyarde de Bellantre qui a eu les honneurs de la première vaccination massive. Tous les enfants et les jeunes gens, soit presque la moitié de la population du village, ont reçu une dose de vaccin mise au point par l'Institut Pasteur. En Allemagne de l'Ouest, une vaccination semblable a eu lieu parmi les moins de 4 ans. Si les parents étaient tous volontaires, les jeunes sujets ont diversement apprécié l'opération. Disons-nous bien qu'il y aura toujours des gens fermés au progrès.
Ça ne date pas d'hier, ces archives de l'INA 1957. Il y a deux grandes familles de vaccins, Frédéric Tanguy, vaccin inactivé, et puis les autres, en particulier celui de la rougeole.
Voilà, qui sont des vaccins vivants. Donc les vaccins vivants, comme le vaccin polio de l'époque, maintenant il a changé, il est inactivé, mais à l'époque il était vivant. La rougeole, la rubéole, les oreillons, la fièvre jaune, la varicelle, tout ça sont des vaccins vivants, c'est-à-dire que le microbe a été atténué en laboratoire, mais il continue d'être vivant, c'est-à-dire que quand on l'injecte dans le bras, il fait une petite infection. Et naturellement, une infection totalement apathogène, parce qu'on a transformé le virus en un virus non pathogène, mais c'est ce qui stimule le plus l'immunité, parce que ça donne beaucoup de dangers à l'organisme. Notre système immunitaire se dit « oulala, il y a une infection, c'est très grave », et il stimule une réponse très très forte, parce que, tout simplement, au cours de l'histoire de l'évolution de l'humanité, on a coévolué avec ces microbes, et on a appris à s'en défaire, on a appris à s'en protéger, parce que pour certes, ces microbes contre lesquels on lutte avec les vaccins, maintenant devenus obligatoires, en fait ce sont des meurtriers, des grands prédateurs qui prélèvent des bébés dans l'espèce humaine. Donc l'espèce humaine s'est défendue en développant un système immunitaire très puissant. C'est ce qu'on stimule en injectant des microbes non pathogènes. Donc les vaccins vivants atténués très puissants, une seule injection suffit, pour protéger pour toute la vie. En général, ce sont aussi les vaccins les plus sûrs parce qu'ils n'ont pas d'adjuvants. C'est un peu des produits naturels issus de la culture de micro-organismes naturels. Et ensuite, les vaccins inactivés, là, c'est aussi le microbe a été cultivé, mais il a été inactivé en le chauffant, en le traitant au formol, des formules chimiques. Et à ce moment-là, il est totalement inactivé, donc il donne moins de danger au système immunitaire. Il faut lui adjoindre un adjuvant pour donner un peu d'inflammation. Et il faut faire souvent un ou deux rappels pour avoir une immunité qui dure plus longtemps.
Frédéric Tanguy, on va prendre tout de suite un auditeur en ligne. Cet auditeur, c'est Mamadou, qui nous appelle de Guinée, de Conakry précisément, de la capitale. Bonjour Mamadou.
Bonjour Caroline, bonjour docteur.
On écoute votre question.
Ok, merci. Ma question, c'est de savoir comment je fais la vaccination chez la femme enceinte.
Est-ce qu'il y a justement des précautions particulières à prendre pour les futures mamans, Frédéric Tanguy ?
Oui, il y a un certain nombre de vaccins qu'il faut avoir. Bon, premièrement, il faut avoir fait tous ces vaccins quand on est une jeune femme en âge de procréer et qu'on a l'intention de faire un bébé. Donc en principe, on a fait tous ces vaccins dans l'enfance, dans la jeunesse. Si son carnet de vaccination n'est pas complet, il faut refaire les vaccinations. Alors en particulier, des précautions qu'il faut prendre, c'est que les vaccinations avec les vaccins vivants, comme rougeole, oreillole, rubéole, oreillon rubéole ou fièvre jaune, il faut les faire au moins un mois ou deux avant d'être enceinte, parce qu'on les déconseille aux femmes précocement enceintes dans les premiers mois de la grossesse, parce que les virus vivants ont la capacité de pouvoir passer la barrière placentaire et d'aller infecter le fœtus. Alors même si c'est des virus inactivés ou atténués, on n'a pas envie de ce problème. Donc une femme qui désire avoir des enfants doit être vaccinée contre l'ensemble des valences vaccinales pédiatriques. Comme ça, elle va, au moment de l'accouchement, transmettre pendant quelques semaines à son enfant un peu de protection, le temps de laisser à l'enfant attendre d'arriver à l'âge des premières vaccinations, entre 2 et 3 mois.
Voilà pour cette réponse, Mamadou. Merci beaucoup de cet appel de Conakry. Un autre auditeur en ligne, cet auditeur, c'est Youssouf, qui nous appelle du Cameroun, de Maroua. Bonjour Youssouf.
Ma question est de savoir pourquoi certaines maladies telles que le paludisme n'ont pas toujours de vaccin jusqu'à aujourd'hui. En quoi consiste ce blocus, alors que ce sont des maladies dont les dégâts ne sont plus approuvés encore de nos jours?
Très forte mortalité, hein, toujours pour le paludisme. Les recherches sur un futur vaccin peut-être. Cette question de Youssouf, Frédéric Tanguy, pourquoi on a progressé sur certaines pathologies, sur certaines maladies, pas sur d'autres?
Alors, certaines pathologies sont très facile à protéger parce que quand on les a eu une fois, on les rattrape pas. C'est l'exemple de la variole, de la rougeole, de la polio, etc. Donc pour ces maladies-là, c'est facile de faire un vaccin. Le palu, vous savez bien qu'on le rattrape. Chaque année, on refait des crises. Chaque année, on se réinfecte. Donc le système immunitaire de l'homme ne développe pas une protection définitive contre le paludisme. Donc dans ces cas-là, on a beaucoup de mal à travailler le système immunitaire pour induire une protection efficace. Alors, pour quelles raisons? D'abord, la variabilité génétique des différents parasites du paludisme.
Plusieurs moustiques, donc ça peut donner différentes formes de paludisme.
Qui hébergent plusieurs types de parasites, avec une variabilité, c'est un peu comme le virus du sida qui a une variabilité énorme. Le parasite du paludisme a aussi une variabilité génétique énorme, donc c'est difficile de protéger contre toutes. On sait aussi que les individus qui vivent sur place, on appelle ça dans les zones d'endémie, dans les zones où il y a du paludisme qui circule, mettent un temps très long avant d'acquérir une immunité qui les protège un peu, et que s'ils quittent la zone d'endémie, ils perdent cette immunité très rapidement. Donc malgré ça, il y a plusieurs stratégies qui arrivent presque à terme, avec une stratégie qui est d'utiliser des parasites atténués, vivants atténués. Malheureusement, très difficile à mettre en pratique parce que il faut faire pousser les parasites, il faut les produire, il faut les atténuer.
Et ça veut dire, par exemple, peut-être qu'il pourrait y avoir différents vaccins en fonction de différentes régions du monde.
Absolument. Aussi en fonction de différents âges, les nourrissons. Vous savez que le paludisme, le pic de mortalité, c'est chez les nourrissons. Donc, bien évidemment, il faut vacciner de manière très précoce. Il y a aussi donc un vaccin qui est en route, qui s'appelle RTSS, qui a déjà fait l'objet d'énormément d'essais d'efficacité en Afrique, dans de nombreux sites en Afrique. Il n'est pas totalement efficace, mais il a montré quand même une protection de la mortalité par neuropalu chez les bébés, qui est de l'ordre de 30 à 40%. Donc ce vaccin devrait peut-être pouvoir arriver dans les pharmacies d'ici quelques temps.
Alors, il y a plusieurs formes de vaccins. Merci d'abord, hein, Youssouf, je vous remercie pour votre appel du Cameroun. Il y a plusieurs formes de vaccins, différentes présentations. Seringues, certains se prennent en gouttes, d'autres se collent. La scarification, on en parlait aussi, ces petits grattages, ces petites cicatrices qu'on fait sur l'épaule le plus souvent. Pourquoi justement ces différentes présentations?
Alors, ça dépend de la composition du vaccin et ça dépend de la transmission de la maladie. Des vaccins vivants, par exemple le vaccin qu'on buvait sous forme d'une petite goutte sur un suc, c'était le vaccin vivant polio. Comme le virus de la poliomyélite est un virus entérique, c'est-à-dire qu'il se développe dans le tube digestif, d'avaler le virus et ça permet de le délivrer sur le bon site pour qu'il réalise une infection qui ressemble à l'infection traditionnelle. Ce qu'on scarifie, c'est parce que sous la peau, il y a une très bonne quantité de cellules primaires du système immunitaire. Naturellement, la peau, c'est la première enveloppe de protection. Donc, cet organe est patrouillé par des cellules immunitaires qui vont détecter le vaccin sous la peau et induire une réponse très large.
On va revenir sur ce sujet de la vaccination, très vaste sujet avec vous, Frédéric Tanguy. On va se retrouver dans 3 minutes après notre rendez-vous avec les informations. Et vous pouvez continuer à nous appeler, le numéro de l'émission, c'est le 33 1 80 82 75 75.
Priorité santé. Caroline Paré.
Et on continue de parler de la vaccination dans Priorité Santé, toujours avec vous Frédéric Tanguy, directeur de recherche au CNRS, chef du laboratoire de génomique virale et vaccination à l'Institut Pasteur. Dans votre livre Le vaccin pour les nuls, publié aux éditions First, vous revenez sur la réglementation en matière de vaccination. Et en France, eh bien, cette réglementation, elle change à compter du 1er janvier. 11 vaccins rendus obligatoires contre 3 aujourd'hui. Ce sera avant l'âge de 2 ans, donc pour les petits-enfants. Diphtérie, tétanos, polio, c'est aujourd'hui, auxquels vont s'ajouter, je fais la liste, hein, il le faut, coqueluche, hémophilus influenza, hépatite B, méningocoque C, pneumocoque, rougeole, au rayon rubéole. Frédéric Tanguy, cela représentera à terme 10 injections pour une protection optimale. Cela doit se faire entre 2 mois et 2 ans. Pourquoi ce délai, pourquoi des enfants si jeunes finalement?
Parce que ce sont des maladies qui frappent les enfants jeunes, donc il faut les protéger avant qu'ils atteignent les maladies, avant qu'ils atteignent, qu'ils soient infectés par les maladies. Donc ça c'est la première raison, c'est une question d'âge auquel on attrape les maladies. La deuxième raison, c'est que les enfants sont plus dans le circuit médical que les très jeunes enfants sont plus dans le circuit médical que les plus grands, parce que les mères s'inquiètent de la santé de leurs enfants, donc vont chez le pédiatre, vont au service de santé, à l'hôpital, etc. Et donc c'est assez facile, c'est plus facile de vacciner ses enfants pour un problème de santé publique, tout simplement.
Alors, vacciner, communiquer sur la lutte contre ces maladies infantiles, comme en 2006, avec, comme on dit, un spot publicitaire, ce message d'information pour le ROR, le ROR, rougeole, oreillon, rubéole.
Pour certains parents, la rougeole, les oreillons ou la rubéole sont de gentilles maladies. Pourtant, plus votre enfant sera grand, plus elles deviendront dangereuses. Rougeole, oreillon, rubéole. N'attendez pas que ça devienne méchant. Vaccinez votre enfant maintenant.
Alors cette extension de l'obligation qui va entrer en vigueur en janvier, elle fait débat, débat en France. Pourquoi il faut aujourd'hui obliger les parents à vacciner les enfants en France?
Bien, parce que la couverture est trop basse. C'est la couverture, c'est le pourcentage d'enfants qui sont vaccinés dans la population est trop basse et donc laisse la porte ouverte à des réinfections, à des entrées dans la population de maladies qu'on avait quasiment vu disparaître. Elles n'ont jamais disparu, ces maladies, elles sont toujours là. Je rappelle encore une deuxième fois qu'il y a que la variole qui a été éradiquée, c'est-à-dire éliminée de la planète. Donc toutes les autres maladies sont là, c'est des agents infectieux qui circulent très très facilement. Aujourd'hui, les populations sont très proches les unes des autres, tout le monde voyage. On est cet après-midi à Riyad, le jour d'après on est en Inde, ensuite on est en Caraïbes, etc. Donc on passe d'un milieu à l'autre, on s'échange des infections. Donc pourquoi rendre obligatoire? Parce que, bon, on va dire que c'est une tentative, une commission qui a travaillé pendant 3 ans sur ce sujet, qui est arrivée à la conclusion que rendre obligatoire, ça permettrait de gagner quelques points dans le pourcentage de couverture, parce que ça va simplement amener des parents qui n'ont pas, qui sont pas assez conscients de ça, ça va les amener à le faire. Ceux qui sont toujours résistants vont toujours résister, naturellement. Il y aura pas de coercition, on va mettre personne en prison, on va pas donner d'amende. On va simplement discuter, les directeurs et directrices d'écoles maternelles, de jardins d'enfants, de crèches, etc., vont redemander aux parents où est le carnet de vaccination. Alors il faudrait simplifier tout ça, le carnet de vaccination, on le perd tous. Ce serait bien d'avoir un carnet de vaccination sur la carte de sécu.
Même si le carnet, même si les vaccinations, elles sont en général dans le carnet de santé de l'enfant, pas dans un carnet de vaccination à part, et que de toute façon, pour inscrire l'enfant à l'école maternelle, il faut présenter aujourd'hui déjà ce carnet de santé. Est-ce que cette vaccination, elle est obligatoire dans beaucoup de pays, Frédéric Tanguy?
Non, il n'y a pas beaucoup de pays. Il y a quelques pays où c'est plus drastique qu'en France. Et jusqu'à présent, la France était plutôt souple, avec simplement des recommandations. Mais les gens confondent entre recommandations. On se dit, si c'est recommandé, c'est que c'est pas si grave. Si c'est obligatoire, c'est que c'est très grave. Donc, il y a une confusion là-dessus. Donc, j'imagine que les services de la ministre de la Santé ont voulu simplifier le discours. C'est obligatoire parce que c'est grave. Et il faut le faire, et la population française désire être protégée de ces maladies-là, donc c'est obligatoire d'avoir une assurance, c'est quand on conduit une voiture, c'est obligatoire d'être vacciné quand on rentre à l'école. C'est un peu le principe. Jusqu'à ce que ça rentre dans les mœurs, c'est pas une obligation, encore une fois, coercitive. Mais il faut que petit à petit, les gens se rendent compte qu'il faut le faire.
Une obligation, en tout cas. Aussi, on entend pas mal les anti-vaccins, qui sont d'ailleurs relayés par certains médecins, même s'ils sont rares. Je pense en particulier au médiatisé professeur Joyeux, Luc Montagnier aussi, se sont produits sur une scène de théâtre au début du mois pour s'opposer à l'extension du nombre de vaccins obligatoires. Des propos d'ailleurs qu'a jugé infondé l'Académie de médecine, également l'Académie de pharmacie. Frédéric Tanguy, comment expliquer que des médecins participent à cette campagne ?
Bah, oui, c'est terrible. Alors, effectivement, j'ai écouté les propos des Joyeux et Montagnier l'autre jour. C'était affligeant, pitoyable. Donc, il y a passé un certain moment, voilà, il faut pas écouter les gens qui disent des bêtises. Même s'ils sont auréolés d'un prix Nobel.
C'est ça qui est compliqué pour le grand public. On dit si ces personnes qui ont, l'un est professeur, l'autre est Nobel, co-découvreur du virus du sida, ça donne quand même une carte de visite. Et ils se produisent sur la scène d'un théâtre pour dire, n'allez pas faire vacciner vos enfants. On a du mal à suivre.
Oui, alors quand on est réellement dans la science et de la médecine et qu'on est actif, on se produit. C'est pas sur une scène de théâtre qu'on communique ses travaux, c'est dans les revues scientifiques, dans les congrès, et bien évidemment, quand on participe à ces congrès, à ces revues scientifiques, on s'aperçoit que ces gens sont ultra minoritaires, ils n'existent quasiment pas.
Malgré tout, dans un contexte de grande défiance de certains à l'encontre suite à de nombreux scandales médicaux, là contre lesquels c'est la réalité, il y a eu ces scandales médicaux et cette vague de surfer en fait sur cette opinion qui est un petit peu méfiante, voire défiante, c'est quelque chose justement qui se heurte à la campagne de vaccination obligatoire. Est-ce qu'à votre avis, c'est quelque chose de dangereux?
Alors, c'est vrai qu'en France, on a l'histoire du sang contaminé, de l'hormone de croissance, du Mediator. Il y a quelques scandales comme ça qui jalonnent. Alors, paradoxalement, il y a des scandales aussi graves ou plus graves dans d'autres pays. En France, ça a une résonance énorme dans la population. Ça tient à l'histoire socio-culturelle de la population française. Donc, les gens sont méfiants. Alors, on s'imagine qu'il y a un complot, que les États sont empoisonneurs. C'est comme on va peut-être y venir, mais le problème des sels d'aluminium qu'on utilise depuis 80 ans dans la population. Est-ce que l'OMS, l'ensemble des 130 pays au monde qui pratiquent ces vaccinations, pratiqueraient sur des dizaines de milliards de doses qui ont été distribuées au cours de ces 80 ans, le désir d'empoisonner les enfants? Ça ne fait aucun sens de dire ça. S'il y avait une moindre pathologie associé à l'utilisation de ces adjuvants, on le saurait, on l'aurait repéré et on y aurait remédié après toutes ces années. Donc on n'arrive pas à comprendre quelle est la motivation des anti-vaccins. Ils sont très efficaces, très actifs, et c'est pour ça qu'on a décidé d'écrire ce livre, parce qu'ils sont plus présents que les autres sur les réseaux, ils sont plus présents dans les médias, publient des livres avec des couvertures affolantes, une bombe toxique, etc. Il était temps de réagir, il était temps de dire qu'est-ce que c'est là. On peut pas nier la science, la médecine, et être en permanence en arrière sur le progrès.
Et une illustration avec, en ligne du Burkina Faso, le docteur Issaye Meda, bonjour.
Bonjour madame.
Vous êtes directeur de la prévention par les vaccinations à Ouagadougou. On parlait avec Frédéric Tanguy du CNRS de ce débat en France. Vous devez trouver ça assez hallucinant, incroyable justement, cette remise en question de la vaccination, y compris par certains médecins et dans une petite partie de l'opinion publique en France. Docteur Meda.
Oui.
Vous avez eu vent, justement, vous êtes au courant de cette polémique en France sur les vaccins?
Tout à fait. Je suis au courant de cette polémique. Nous n'avons certainement pas les mêmes préoccupations parce que la France, comme d'autres États du Nord, ont pu éliminer un certain nombre de maladies infectieuses évitables par la vaccination. Mais pour nous autres, pays du Sud, en proie toujours aux maladies infectieuses, nous savons vraiment l'importance de la vaccination et je dirais que vous le savez mieux que moi que la vaccination, c'est l'intervention de santé publique la plus efficace après l'eau potable. Donc, l'importance de la vaccination n'est plus à démontrer. Maintenant, les débats scientifiques, les polémiques autour de nombre de vaccins introduits, nombre à ne pas introduits, nous ne sommes pas au même degré d'échelle pour ces débats. Nous savons simplement que pour nous, pays du Sud, pays africains, la vaccination a contribué de loin à faire reculer les maladies, la prévalence des maladies infectieuses. Et nous mettons beaucoup d'efforts pour que cela puisse continuer.
Docteur Issaïe Meda, vous pointez le côté totalement essentiel de ces vaccinations. Justement, les gens au Burkina se font vacciner plutôt facilement?
Ah oui, il faut dire qu'au Burkina, depuis la révolution, depuis l'instauration du programme élargi de vaccination en 1980, il y a eu un gouvernement dans les années 83, qui a lancé en 1984 ce qu'on appelle la vaccination commando. C'est-à-dire que les gouvernants à l'époque avaient compris déjà l'importance de la vaccination. Et vous savez que le Burkina aussi a vécu, étant dans la ceinture africaine de la méningite, a vécu plusieurs épidémies, notamment des méningites, et qui ont causé malheureusement des centaines de décès. Alors, depuis, les autorités gouvernementales en son temps ont réussi à faire prendre conscience aux populations de l'importance de la vaccination. Donc aujourd'hui au Burkina, les gens réclament le vaccin. Voilà. Les gens réclament le vaccin pour ce qu'ils ont vécu déjà par rapport à la rougeole, par rapport à la méningite par le passé, qui a causé de nombreux décès. Mais depuis que le Burkina a été le premier pays qui a introduit le vaccin contre la méningite de sérotype A en 2010 et a introduit cette année 2017 ce vaccin-là dans la routine, depuis 2010, nous n'avons plus eu de grandes épidémies de méningite due au sérotype A. Et donc, les gens aujourd'hui réclament le vaccin. Donc quand on dit qu'il y a la vaccination, les gens, ils vont même ceux qui sont vaccinés, réparer une deuxième fois, disant qu'ils ne sont pas vaccinés, pour se faire vacciner parce qu'ils veulent avoir la certitude qu'ils sont protégés. Donc le vaccin, c'est quelque chose qui protège. Un enfant complètement vacciné est un enfant protégé. Un enfant protégé, ça fait des économies d'échelle pour nos pays.
Et comment vous informez les populations, je pense en particulier dans les zones reculées, pour que tout le monde vienne justement au moment de la vaccination pour recevoir son injection?
Vous avez raison. Au Burkina, nous n'avons plus de problème de couverture. Parce que nous sommes au-delà de 90% pour pratiquement l'ensemble des antigènes, excepté le Menafrivac qui a été introduit cette année, mais nous avons déjà dépassé les 70%, nous sommes déjà près de 80% d'ici pour un objectif de 70%. Mais donc, ce qui est au Burkina, là, il ne s'agit plus de problème de couverture. Le Burkina fait partie des pays de la sous-région qui ont les meilleures couvertures vaccinales possibles. Notre question aujourd'hui au Burkina en matière de vaccination, c'est la question d'équité. Comment faire pour que les quelques enfants qui échappent encore à la vaccination, qui ne sont pas totalement vaccinés, complètement vaccinés, puissent avoir le vaccin? Et c'est ça, cette question de qui nous importe. Alors, comment on fait? Alors, parce que il y a les zones urbaines. Et vous savez que les zones périurbaines regorgent beaucoup de populations entassées qui, parfois, n'ont pas accès à la vaccination. En dehors de ça, dans les zones rurales, il y a les problèmes d'accessibilité, ça peut être géographique, ou bien ça peut être momentané lors des saisons de pluie où il n'y a plus d'accès du tout. Nous avons aussi les questions de mouvement des populations. Bon, il y a certaines populations qui sont un peu nomades par rapport aux frontières aujourd'hui. Nous avons aussi des zones telles que les zones d'exploitation minière artisanale où qui drainent beaucoup de populations. Donc, dans ces milieux-là, et même les marchés, dans ces milieux-là, il y a toujours des enfants qui arrivent à échapper. Donc, nous mettons des stratégies en place de communication et de stratégies avancées pour aller essayer de capturer des enfants qui ont pu échapper. Et donc, la communication, comment nous l'amenons? Nous utilisons tout type de médias possible. Nous avons ce qu'on appelle, dans tous les villages au Burkina Faso, il y a ce qu'on appelle les agents de santé à base communautaire. Voilà, donc dans chaque village au Burkina, il y a deux agents de ce type-là. Et ces agents servent de relais aux agents de santé pour passer les messages de santé, y compris les messages en faveur de la vaccination.
Merci.
Dans les médias locaux.
Les médias qui retransmettent donc tous ces messages, tous ces appels à la vaccination. Merci infiniment, docteur Issaïe Médin. Je rappelle que vous êtes directeur de la prévention par les vaccinations à Ouagadougou. Une question importante, c'est celle des ruptures de stock. En général, on fait attention pour qu'il y ait des vaccins pour tout le monde, mais ça s'est posé notamment en France. Il y avait des composés multiples, non pas par exemple seuls les trois vaccins obligatoires. À quoi sont dues justement ces ruptures de stock, Frédéric Tanguy ?
Oui, je vais venir. Je voudrais juste d'abord souligner par rapport à ce qui vient d'être dit deux choses très importantes. Première, les vaccins, ça marche. L'exemple qui a été donné, c'est la méningite. Effectivement, méningite, c'est une maladie mortelle qui disparaît lorsqu'on vaccine. Deuxième chose très importante, c'est que la couverture vaccinale pour certaines maladies est meilleure au Burkina qu'en France. Donc on devrait prendre exemple sur ces pays-là qui ont parfaitement compris l'efficacité des vaccins. Alors pour les ruptures de stock, effectivement, lorsque les laboratoires qui fabriquent les vaccins décident, on va pouvoir dire deux, trois mots sur les laboratoires qui fabriquent un vaccin, comme c'était le cas pour DTP, diphtérie, tétanos, polio, sous une forme. C'est-à-dire, ça veut dire préparer les trois vaccins, les mélanger, les mettre dans
un... Aussi pour limiter le nombre de piqûres pour les enfants,
voilà,
c'est plus
absolument.
Simple.
Voilà, absolument. À un moment donné, des études scientifiques qui sont menées en parallèle depuis une quinzaine d'années ont montré qu'on pouvait mélanger ces vaccins à d'autres vaccins, en particulier l'hépatite B, par exemple, qu'on veut plus faire chez l'adulte parce qu'il y a eu les polémiques et les histoires autour des risques de sclérose en plaques, qui en fait sont totalement disparus maintenant. C'est un risque qui n'existe pas, mais néanmoins, on vaccine les bébés. L'hémophilus influenzae, etc. Donc, formuler ces vaccins-là en une seule prise, c'est un avantage pour les familles, c'est un avantage aussi pour les industriels qui fabriquent plus qu'un seul produit, c'est un avantage commercial, etc. Maintenant, voilà, ensuite, il y a des gens qui résistent, qui disent « Ah, mais on avait le DTP avant, maintenant on nous impose 6 valences ou 5 valences dans un pentavalent, dans un hexavalent, pourquoi on est obligé de les prendre ? On nous impose un adjuvant, en fait un adjuvant qui était déjà utilisé, le même. Donc, c'est des problèmes industriels, c'est parce que le vaccin, c'est un produit industriel, parce que le vaccin, il est fourni en millions, milliards d'exemplaires. Il y a 130 millions de bébés qui naissent chaque année dans le monde. Ils ont 10 vaccins à recevoir, donc ça fait, si on vaccine tout le monde, ça fait 1,3 milliard de doses. Il faut les fabriquer, c'est aussi compliqué et aussi simple que de fabriquer un Bic ou du savon. Mais il faut acheminer ça, il faut une chaîne du froid, faut etc. Donc c'est finalement coûteux, difficile.
Et justement pour nos auditeurs dans les régions tropicales, hein, justement en relation directe avec ce que vous venez de dire, cette question d'un auditeur du Tchad, nous sommes en ligne avec Jong. Jong, bonjour, on vous écoute.
Bonjour. Bonjour. Ma question, c'était de savoir, par rapport à la conservation des vaccins, et quand les vaccins sont mal conservés, quelles sont les conséquences qui peuvent arriver ?
Avec en particulier certains vaccins qui nécessitent, Frédéric Tanguy, d'être conservés au froid, d'où le problème, forcément, en Afrique subsaharienne.
Alors, si le vaccin, effectivement, est totalement inactivé par une absence de chaîne du froid ou par un problème d'exposition trop importante à la chaleur, il n'y aura pas d'effet secondaire, il y a simplement le vaccin ne marchera pas, il faudra le refaire avec un bon produit frais. Mais il n'y a pas d'effet secondaire, le vaccin s'inactive simplement à la température. Alors, pour éviter ça, les vaccins sont formulés à des doses supérieures à la dose nécessaire pour immuniser. Donc si le vaccin s'inactive partiellement, il reste encore un peu de produits actifs dans la seringue. C'est un problème, effectivement, la conservation des vaccins entre les aéroports, les tarmacs, les avions, les hangars, l'acheminement dans les dispensaires, dans les pharmacies, etc., pour un certain nombre de vaccins qui nécessitent d'être gardés relativement au frais. C'est un problème auquel beaucoup de monde sont confrontés, qui nécessite beaucoup d'argent, la mise en jeu de réflexions importantes, mais c'est un problème qui, pour l'instant, est relativement bien géré.
On s'achemine vers notre conclusion, Frédéric Tanguy, cette question un petit peu générale, hein, je sais que ce sera difficile d'y répondre en quelques minutes. Où en est la recherche ? On pense bien sûr à ces maladies, le paludisme, on en a parlé tout à l'heure, mais aussi le sida, forcément, et puis Ebola, qui avait fait cette apparition il y a deux ans en Afrique de l'Ouest. Où on en est pour ces vaccins-là ?
Donc la recherche bouge, la recherche avance très bien. Il y a des candidats vaccins SIDA qui fonctionnent bien sur des modèles précliniques de la maladie, qui pourraient peut-être d'ici quelques années arriver. Les Ebola, on a déjà un vaccin qui fonctionne. Il y a d'autres candidats qui existent aussi. Ce qu'il y a de nouveau actuellement, c'est pour les maladies émergentes. Ebola, Lassa, SRAS, MERS.
Des fièvres, toute une série de fièvres.
Toutes ces fièvres émergentes qui quittent l'Afrique ou qui quittent l'Amérique latine pour se répandre dans le monde. Il y a eu des mobilisations, en particulier il y a une coalition qui s'appelle le CEPI, qui réunit de l'argent, énormément d'argent chaque année pour financer, en dehors du monde industriel, en dehors des finances industrielles, pour faire financer des vaccins qu'on va pouvoir stocker en avance pour pas se trouver les mains dans les poches, les bras ballants quand une épidémie arrive. Donc il y a à nouveau des mobilisations. Il faut savoir que comme dans les années 60-70, on s'est mobilisé contre la variole pour l'éradication. Aujourd'hui, même si on est dans un monde très individualiste de Facebook, de Snapchat, etc., il existe encore des organisations et des gens qui sont motivés par l'action collective. Le vaccin est typiquement une action collective pour laquelle il faut chercher de l'argent, il faut se mobiliser, il faut travailler.
Une action de santé publique, on l'a bien compris. Merci à vous Frédéric Tanguy, directeur de recherche au CNRS, chef du laboratoire de génomique virale, vaccination à l'Institut Pasteur. On rappelle le titre de l'ouvrage que vous avez co-signé avec Jean-Nicolas Tournier, « Les vaccins pour les nuls » aux éditions First. Citation que je voulais lire, hein. C'est tout au début, au premier chapitre de votre livre pour conclure cette émission. « Les vaccins ne sont pas tombés du ciel comme une promesse de l'industrie pharmaceutique destinée à nous empoisonner. Ils ont été développés par des savants, des médecins qui vivaient dans un monde dans lequel les infections étaient le plus grand danger pour la vie et qui cherchaient à nous protéger de la malédiction des maladies infectieuses. » Et puis, j'avais envie aussi de citer ces propos que vous attribuez au biologiste américain Jonas Edward Salk, comme quoi on peut être médecin un petit peu poète, inventeur du premier vaccin contre la polio. Il n'a jamais voulu en tirer d'argent, il n'a jamais voulu le breveter, car il disait « on ne brevette pas le soleil ». Merci Frédéric Tanguy. Comme chaque lundi, notre page nutrition dans Priorité Santé, c'est avec vous, Stéphane Besançon, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes nutritionniste, directeur de l'ONG Santé Diabète. Aujourd'hui, on va revenir sur un sujet qui intéresse particulièrement nos auditeurs. Il s'agit des cubes alimentaires. Alors, pour démarrer, pouvez-vous nous rappeler ce qu'ils contiennent?
Alors, d'abord, lorsqu'on regarde la composition des cubes, enfin des plaquettes des cubes, on va dire, on est très loin de l'image un peu flatteuse qui est donnée par les compagnies qui les vendent, notamment dans les cubes les plus connus. Si on prend le modèle bouillon viande, parce qu'il y a plusieurs modèles, et qu'on regarde un peu sa composition, on voit qu'en réalité, il contient que 2,6% d'extrait de ce bouillon de viande. Et qu'en fait, si on regarde la composition en détail, on va s'apercevoir que la composition en glucides, lipides et protéines, en éléments nutritifs et en minéraux est très très faible, et qu'en fait la majeure partie de ces cubes c'est composé de sel. Il est présent en très grande quantité, puisqu'on a à peu près 0,46 g de sodium, soit 1,2 g de sel pour une portion de 2,5 g, ce qui veut dire qu'un cube entier, parce que c'est exprimé en quart de cube, sur les cubes, les portions, fait pratiquement 5 g de sel.
Alors pour bien comprendre, comment situe cette quantité de sel apportée par un cube alimentaire par rapport à ce qui est nécessaire pour toute une journée?
Alors cette quantité est totalement énorme, parce qu'il faut rappeler que l'Organisation mondiale de la santé recommande une consommation maximale de 5 g de sel par jour, qui au mieux est réparti en 1 g par portion alimentaire consommée. Donc si on regarde si on revient sur notre paquet, on s'aperçoit que cet apport d'un cube représente pratiquement 80% de l'apport journalier de sel, sachant que là-dessus on n'aura pas le sel qui est apporté dans tout ce qu'on va mettre pour préparer, mais aussi dans le sel qui est contenu naturellement par les aliments. Et il faut savoir, l'autre deuxième gros problème, c'est que les cubes qui sont vendus en Afrique sont un tout petit peu plus gros, donc ils sont pas moins bons ou meilleurs, mais ils sont juste un peu plus gros. Donc la quantité de sel qu'ils vont contenir est un petit peu plus importante. Ils vont contenir pratiquement 8 grammes de sel par cube, soit 1,6 fois la quantité recommandée par jour par l'Organisation mondiale de la santé.
Alors, est-ce qu'il existe des préparations traditionnelles qui permettent de donner du goût à ce qu'on prépare, tout en maintenant un apport en sel la plus raisonnable?
Alors d'abord, la première recommandation, c'est que de bien redire aux gens que le cube, il sert à assaisonner. Donc déjà, avant même de savoir si on peut préparer mieux les cubes, c'est déjà de se dire qu'on peut réassaisonner les sauces différemment avec des épices traditionnelles comme le datou, le sumbala pour les gens qui nous écoutent en Afrique, le piment, l'ail, l'oignon, enfin toutes les épices que l'on connaît pour relever. Après, la deuxième chose qui est très importante, c'est qu'aujourd'hui on peut préparer, j'allais dire, à la maison des cubes. Alors il y a deux solutions, enfin deux choix, j'allais dire, soit on veut un peu préparer l'équivalent des cubes bouillon viande par exemple, donc là il suffira de récupérer des os ou des morceaux de viande utilisés, de les faire bouillir pendant 1h30, de les assaisonner un peu, de filtrer ce bouillon et ensuite de mettre ça dans des petits carrés comme les petits carrés à glaçons et de mettre ça au congélateur et du coup on obtient des cubes. On peut faire exactement la même chose avec les légumes, de faire un mélange de légumes pendant à peu près, les faire bouillir pendant 1 heure, bien assaisonner aussi et les mettre de nouveau au congélateur et après il suffira de prendre les cubes et de les mettre dans la sauce, ils seront totalement naturels.
Et Stéphane, si on n'a pas de congélateur, qu'est-ce qu'on peut faire ?
Alors c'est la question qu'on nous pose souvent quand on dit ça, notamment dans des pays où il y a des problèmes avec l'électricité et les congélateurs, et ben là on peut faire exactement la même chose, la seule chose sur laquelle il faut faire attention c'est la qualité, j'allais dire la conservation pour pas que les cubes se périment et puissent avoir des problèmes de santé, donc il suffit de faire la même chose mais de les conserver au frigo et de pas les conserver plus de 3 jours pour qu'on soit sûr qu'il n'y ait pas de contamination.
Merci beaucoup Stéphane Besançon, je rappelle que vous êtes nutritionniste et directeur de l'ONG Santé Diabète. Et notre émission touche à sa fin. Demain, dans Priorité Santé, nous parlerons des antibiotiques. Indications, bénéfices, résistance au traitement et contrefaçon. Si vous voulez témoigner, poser une question, bien sûr, le numéro de l'émission, c'est le 33 1 80 82 75 75. À demain et excellente journée.
C'était Priorité Santé avec Suno Assurance. Notre métier, l'assurance.